Voilà le thème de l'exposé de ce soir, les pensées. On passe beaucoup de temps au contact des pensées. Sans s'en rendre compte, c'est là qu'on passe la majorité de notre vie et vous avez peut-être pu remarquer en retraite que ceci est vraiment assez clair. Et je vais commencer par une petite citation dans le Dhammapada. On l'a déjà nommé, ce Dhammapada. Le Bouddha dit ceci, « L'esprit difficile à contrôler volage, qui se pose où cela lui chante. Mieux vaut l'apprivoiser. » La discipline de l'esprit mène au bonheur. L'esprit difficile à voir, subtil, qui se pose où cela lui chante, le sage le protège. L'observation de l'esprit mène au bonheur, à la paix. Et cette dimension de protéger son esprit est quelque chose qui me parle de manière tellement évidente ces jours où justement il y a naturellement tellement de tendances à pouvoir le laisser voler là où il lui chante. Et donc toute la capacité de pouvoir être en présence de ce qui est éprouvé, nos épreuves de la vie. Nous avons tous des épreuves dans la vie, j'imagine que vous en avez. On a pu peut-être les remarquer depuis que nous sommes ici. Et d'être à la merci de son esprit sans avoir de capacité de pouvoir le protéger, eh bien, nous allons naturellement amplifier notre douleur intérieure, avoir des émotions souvent incessantes, des peurs paralysantes, des désirs parfois obsessionnels, comme on a parlé Sandrine hier soir, des turbulences intérieures. Et donc, dans cet espace de contact, il y a évidemment du chaos. Une manière de parler au niveau du processus et de notre rencontre, de pourquoi nous sommes ici, c'est de sortir de ce chaos. Alors, il y a le chaos intérieur, mais on peut aussi voir qu'il y a le chaos à l'extérieur. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer qu'on a naturellement là une interdépendance. Et cette merveilleuse phrase de Gandhi d'être le changement qu'on aimerait souhaiter voir à l'extérieur débute par nous-mêmes. Et donc ça, je crois que c'est quelque chose d'assez important. Et d'avoir cette possibilité justement déjà ici d'éclairer comment l'esprit s'envole, se pose là où ça lui chante, et combien nous pouvons aussi naturellement le protéger. Et cette dimension de protection de l'esprit est quelque chose, en tout cas pour ma part, qui me parle immensément. Donc l'un des grands bienfaits de cette pratique, de toute cette exploration intérieure, est de pouvoir, quelque part, disposer de moyens d'entrer en relation avec ce qu'on peut appeler le chaos, les pensées, les turbulences, les émotions difficiles, afin d'y voir un petit peu plus clair, voire même beaucoup plus clair. Et c'est génial de pouvoir avoir des rencontres diverses et variées au fil de la journée pour se rendre compte qu'on se perd et qu'on s'y retrouve. Qu'on perd pied, mais que quelque part, à un moment donné, il y a cette capacité de pouvoir se retrouver. Donc, pensée et émotion sont souvent les deux manières, quelque part, de souffrir. On a naturellement ici cette disposition de percevoir dans le silence, d'une manière tellement claire, comment nous créons des univers, des mondes intérieurs qui ensuite deviennent tellement réels, le monde virtuel, le monde imaginaire, qui devient tellement réel, qui se substitue à la réalité. Vous avez pu remarquer ça, en étant ici, combien on peut se laisser emporter et le piège jusqu'à ce qu'on médite, c'est qu'on ne se rend pas compte de ceci. On n'en a absolument pas conscience jusqu'à ce qu'on nous dise déjà, qu'on pointe cette réalité-là, que peut-être que les pensées ne sont pas la réalité. Il y avait un étudiant qui était aux États-Unis et il est venu à l'AMS où on enseignait. Et puis, il faisait sa thèse sur justement le monde virtuel, le monde réel. Et puis, il a naturellement questionné les enseignants. Et puis, il est aussi allé dans les rues de Barrie, puis ensuite du village à côté, pour, quelque part, c'était comme des micro-trottoirs. Hein. Et puis, il questionnait les gens, « Est-ce que vous savez que vous pensez ?» Et forcément, que les gens le prenaient vraiment pour un dingue, quoi. Il nous racontait, il avait fait cette recherche avant, en disant, « Mais qu'est-ce que c'est que cette question ? D'où elle vient ? D'où elle apparaît ?» Puis, mais est-ce que vous vous rendez compte que ce que vous pensez n'est peut-être pas ne correspond pas complètement à ce que vous êtes en train de vivre ? Et puis, la plupart d'entre eux, il y a une personne, je crois, sur un certain nombre, je ne me rappelle plus, donc je ne veux pas commencer à imaginer le nombre, mais il y a une personne qui s'est arrêtée et qui a vraiment, quelque part, entendu la question et qui s'est arrêtée, qui a dit et qui a investigué ce que l'étudiant lui proposait. C'est intéressant ce que vous dites. Donc on crée des mondes, des univers entiers, qu'on habite ensuite, sans s'en rendre compte, pendant très longtemps. Et donc le piège, c'est ça, c'est déjà le premier piège, c'est de pouvoir quelque part concrétiser et se rendre compte que par moment, ces pensées, eh bien, elles ne sont pas en lien avec la réalité. Et c'est exactement ce piège-là que n'ont pas les sensations corporelles, que n'ont pas le goût, que n'ont pas les sons. Parce qu'au contact des sens physiques, nous avons naturellement le contact avec la réalité. Un son est un son. Un goût est un goût. Vous avez pu goûter aujourd'hui plein de bons aliments. Voilà, donc expérience directe, on est d'accord. Les pensées, eh bien, ce sont des représentations. Comme ce sont des concepts, ce sont des idées, et c'est pour ça qu'elles nous piègent, parce qu'elles se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Et on ne s'en rend pas compte, jusqu'à ce qu'on médite vraiment d'une manière assez longue, je vais dire, au fil du temps. Et les exemples qui sont donnés souvent, c'est que la pensée d'un verre d'eau ne va pas étancher ma soif. On a parlé de soif hier soir, soif d'existence, soif des plaisirs des sens. Ben cet après-midi, j'étais assise ici à 4h30, je ne vous dis pas ce que j'avais chaud. Et puis, j'étais là à me penser, oh là là, quand je vais partir à 5h15, la première chose que je vais faire, c'est boire un verre d'eau. Mais elle est revenue, cette pensée. Oh, le verre d'eau, voilà. Soif des plaisirs des sens, le verre d'eau. Ben, plus j'y pensais, plus j'avais soif. C'est exactement ça qui se passe, pour en venir en lien. Voilà. Donc cette pensée du verre d'eau ne peut pas étancher la soif. La pensée ne peut pas se substituer à l'eau. La pensée d'une fleur ne sent pas. Donc il y a là quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est comme si justement on se référait à l'objet. Cet objet qui n'est pas l'objet, qui est la pensée de l'objet. De la même manière dont Sandrine a parlé du désir hier soir. D'accord ? Donc, au niveau des pensées, c'est tellement subtil. Lorsqu'on commence à être vraiment en lien, à se rendre compte que la représentation, l'idée, le concept, la pensée n'est pas la chose. Et à ce moment-là, il y a quelque chose de vraiment très concret qui devient réel. Et encore plus en lien avec les personnes. J'étais en Birmanie, dans mes toutes premières années de méditante, parce qu'il n'y avait pas grand-chose en Occident, je vais vous dire. Je ne suis pas allée là-bas pour, par choix, mais vraiment dans les années 70, fin 70, début 80, il n'y avait pas grand-chose. Donc je suis allée en Birmanie, c'est là qu'en Orient, on me disait, oui, là-bas, il y a de la méditation. Effectivement, il y en avait. Et puis, j'étais très, 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 très jeune, et forcément, contre l'avis de mes parents. Pas du tout content avec cette idée. Je pense qu'ils étaient un peu inquiets, hein, parce qu'à l'époque, en plus, déjà, la méditation aujourd'hui, elle est pour tout le monde. À l'époque, c'était les illuminés qui allaient investiguer un parcours comme celui-ci. Et du coup, voilà, il y avait une opposition. Et donc, à nouveau, dans ma méditation, venait la pensée de ma maman, qui n'était pas du tout contente, avec laquelle, forcément, il ne pouvait pas y avoir de dialogue, comme Sandrine l'a dit, il n'y avait pas de... ou Cécile, peut-être, de téléphone et autres, donc très peu de correspondance, puis là-bas, c'était très strict. Et je suis restée plusieurs mois dans cette situation. Et forcément, la pensée de ma mère revenait, avec ma propre inquiétude, par rapport à ce que j'avais effectivement entrepris comme décision. Et un jour, et j'aime bien raconter cette histoire, parce que j'étais avec Sayadaw Pandita, et Sayadaw Pandita est un maître extrêmement exigeant, qui est radical, et qui ne va pas vous écouter vos histoires. Hein, je peux vous dire clairement, il est là, au bout de 2 secondes, si ce n'est pas le processus, la respiration, le noting, il sonne le gong, et puis c'est fini, l'entretien. Je vous assure que c'est 2 minutes. Hein. Et donc ce jour-là, j'étais vraiment quand même dans un état assez déplorable, on va dire, et j'avais un peu de larmes. Et il me dit, qu'est-ce qui se passe? Puis je dis, ben voilà, ma maman, la pensée de ta mère n'est pas ta mère. Et hop, le gong a sonné. Je suis sortie de là. Il a zéro empathie, ce maître. Et non, mais vraiment, et c'était vrai. Mais waouh, le courage de sonner ce gong et de me dire tout simplement ça. De me laisser complètement pantois, partir dans ma chambre, continuer de pleurer. Puis de me dire, ben, je fais quoi avec ça? Et puis forcément, ben, on se remet de situation comme ça. Donc il n'y a aucun doute que là, j'ai dit, ok, tu vas t'asseoir dans le hall. Et puis, c'est super, parce que, justement, les refuges, là-bas, je peux vous dire, sont vraiment une pratique. Il y a des grands Bouddhas, forcément, dans le centre, hein, pas juste un petit Bouddha, il y en a partout, il y en a à l'extérieur, il y en a à l'intérieur. Et je me suis dit, tiens, refuge dans le Bouddha Dharma Sangha. Et j'ai été m'asseoir près d'un Bouddha, à l'extérieur, qui était vraiment très grand, il faisait plusieurs mètres, de haut, et puis j'ai pris en compte mon émotion et ma pensée, et j'ai simplement été à l'écoute de ce que la pensée de ma mère n'est pas ma mère. Et tout à coup, ça a fait tilt. Puis j'ai été dans un espace d'écoute et de réceptivité et de clairvoyance, tout à coup, à dire, mais il a totalement raison. Mais c'est tellement intéressant. Et vous voyez, ça fait, je ne sais pas, presque 40 ans. Hein. ce moment-là de réalisation a été un moment de clairvoyance, comme on dit en anglais de insight, c'est-à-dire de lucidité. Et on a tous, je pense, hein, des moments où tout à coup, il y a une réalisation qui fait que, waouh, on se réveille. C'est une présence qui est éveillée. Et je pense que là, c'est pas du tout de nouveau de dire voilà le récit et puis de partir. Il aurait pu dire autre chose, broder sur expérience. Ouais, c'est maître Birman vraiment, il n'écoute rien du psychologique et c'est vrai, mais rien du tout. Et par chance, heureusement, après, ben, j'ai pu méditer en Occident, qui m'a aidé aussi, hein, comprendre un petit peu ce qui se passait en moi et tous les processus. Donc je dénigre pas du tout ça, mais en même temps, c'était radical. Donc, de même que la pensée d'une personne n'est pas la personne. Et ça implique que là, il y a quelque chose qui fait qu'on n'a plus affaire avec notre ignorance, notre contenu, mais qu'on est vraiment au contact de ce qui se passe réellement, reconnaître une pensée comme une pensée. Reconnaître la pensée comme pensée, c'est quelque chose qu'on est invité à faire encore et encore. Mais ce n'est pas facile, parce qu'on se perd dans quoi? Et on l'a dit, dans les récits, dans le contenu, dans ce qui se dit, dans ce qu'on se raconte. Et on passe tellement de temps à ce niveau-là qu'on ne réalise pas que c'est quelque part la représentation, que c'est le concept, que c'est l'idée, que c'est l'histoire que je me raconte. Le narratif. Donc ce narratif, il a sa place, mais il y a un moment donné où on va passer du niveau conceptuel au niveau qu'on vous invite à faire depuis le début de la retraite, qui est de l'expérience directe et qui est du vécu, de ce qui est éprouvé, de ce qui est là présentement au moment où c'est là. Et donc, on commence à se rendre compte que de l'espace de la présence, ben, c'est un peu comme un poste de radio allumé. Vous avez remarqué que, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont un petit peu, quelque part, l'habitude d'avoir un poste de radio allumé chez eux ou chez elles, hein, comme si on avait besoin d'une compagnie, hein, comme si on avait besoin de... Voilà, de, moi ça m'arrive, quand Charles est loin pendant longtemps, du coup je me dis, ah ouais, non mais c'est hyper silencieux, et Dieu sait si j'aime le silence. Mais il y a des fois où on a besoin de compagnie, donc on se tient compagnie quand on a le poste de radio allumé. Et... Le canal, là, dans notre méditation, ici même, si vous vous ennuyez un petit peu, ben, ça peut être divers et variés, le canal. Hein. Lequel canal de radio vous aimez écouter? Ça peut être le jugement, ça peut être la plainte, ça peut être quelque part les divagations, ça peut être les distractions, ça peut être naturellement les vacances qu'on va peut-être passer une fois qu'on est sorti d'ici, ça peut être mille et une choses. Donc, ce narratif, il est là et il va naturellement prendre de l'espace. Mais c'est très intéressant parce qu'on dit non, ne pas l'éviter, mais l'écouter. Écouter ce narratif pour être conscient de ce qu'il dit ou de ce qui se dit. Est-ce qu'il y a un commentaire? Est-ce qu'il y a une évaluation? Est-ce qu'il y a du jugement? Est-ce qu'on est constamment en train de décrire l'expérience présente qui fait qu'on occupe cet espace? Parce qu'il se peut très bien que ce narratif demeure là et qu'on se fige à cet endroit parce qu'il y a peut-être une crainte du silence, une crainte de cet espace de présence sans qu'il y ait de commentaires, sans description. Et c'est fascinant de le savoir, ça. Ah, waouh ! Effectivement, rien que de repérer qu'il y a peut-être un peu de crainte de rester vraiment au contact de l'ancrage, des sensations corporelles, sans qu'il y ait de récit, c'est quelque chose qui va naturellement, ici, nous intéresser. Vous comprenez ceci? Et ça, c'est quelque chose qui est « Ouh là là !» Donc, je vais me raconter la petite histoire, ou la longue histoire. Une histoire du matin au soir. Je ne vous le souhaite pas, parce que c'est fatigant. Et c'est là qu'on se rend compte, tiens, waouh, mais c'est fou. Des fois, j'ai eu cette possibilité de me rendre compte de ceci et combien ça m'a fatiguée. Je me dis, mais je suis épuisée à la fin de la journée d'une retraite de méditation. Et bien parce que il y a une lutte contre ce narratif et en même temps, il y a vouloir être en présence de l'absence du narratif. Donc c'est contradictoire ces deux positions. On voudrait être à la fois dans la tranquillité et le silence de ce qui est ressenti corporellement, et en même temps, on lutte contre ce qui se dit, ce qui se décrit, ce qui est exprimé. Donc, là, il y a quelque part une double position qui est fatigante. Donc, choisissez-en une. C'est ça mon conseil. Quand vous êtes en train d'avoir votre narratif, ben, allez-y et écoutez l'histoire qui se raconte. Vraiment, dans le sens de pouvoir, quelque part, accueillir et dire, tiens, waouh, il y a un contenu, ok, qu'est-ce que dit ce contenu? Qu'est-ce que dit ce contenu? Quel est le sens? Est-ce qu'il a de la valeur? Est-ce qu'il a, quelque part, un sens? Ou au contraire, est-ce que c'est simplement de la distraction? Mais de s'y intéresser, Et c'est là la dimension de l'investigation. L'investigation, ça nous permet vraiment de nous intéresser à comment ce processus se déroule, quel est l'évitement et qu'est-ce qui émerge à partir de ce commentaire ou cette description. Ou, si je me pose à ce moment-là dans l'ancrage, cette zone d'ancrage, et je peux quelque part avoir vraiment un contact véritable, ben, je me rends compte que c'est possible à ce moment-là de laisser un tout petit peu le commentaire, le narratif en arrière-plan, et je vais vraiment décider de choisir de m'intéresser aux sensations corporelles. Et c'est très intéressant parce que la plupart des personnes à ce moment-là vont commencer à découvrir le neutre. Ce qu'on a découvert et ce qu'on a décrit comme neutre au niveau de la tonalité affective. Au niveau de la sensation affective là, il se peut qu'il y ait tout à coup une dimension d'appréciation du neutre. Ah, c'est plus calme que tout le récit, toutes les fabrications mentales et constructions, mais de rester au contact du calme qui peut être ressenti dans le vécu, dans ce qui est éprouvé, dans le corporel. Et très vite, hop, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on le quitte parce qu'on se dit, voilà, neutre, non, ben, déjà, ça fait peur. Et donc, c'est très intéressant parce que la peur fait que ben, on va repêcher le récit, l'histoire qu'on se raconte, plutôt que de peut-être tranquillement découvrir comment c'est de vivre corporellement. Donc vous voyez que là, il y a un choix. On peut choisir le narratif pendant un certain temps, et à un moment donné, on peut aussi, avec un petit peu plus de tranquillité, contacter l'espace du corporel, les sensations corporelles, et découvrir que c'est possible peut-être d'être en présence du neutre, la sensation affective neutre, sans intensité particulière. C'est ça que ça veut dire. Ni agréable, ni désagréable. Mais c'est pas rien. Et souvent on se dit, oh là là, mais c'est rien. Non, c'est pas rien. C'est simplement peut-être un tout petit peu plus plat. Un peu moins passionné. Un peu moins intense, mais de rester là, on vit à ce moment-là dans un monde qui commence à être un monde d'essence, le monde d'essence, qui est tout à fait particulier pour un méditant et une méditante. Et que je pense que nulle autre situation va proposer ceci. Et par moment, eh bien, il y a ces processus comme on peut les avoir, de pensées, qui sont des pensées à écouter et à écouter d'un espace de non-jugement. Vous voyez, la présence non-jugeante est quelque chose d'important. Souvent, on réagit. C'est intéressant, ce matin, là, j'étais en train de me promener, puis tout à coup, hop, j'ai vu, parce que ma chambre, elle donne sur... vos habits qui sèchent là, les lignes de vêtements. Donc par moment, j'ai pas envie, voilà, je tire le rideau, mais il y a des moments où j'ai envie de lumière, cette chambre est très sombre, du coup, puis je voyais des couleurs de vêtements. Ah, j'aime beaucoup cette couleur. Ah non, celle-ci, je l'aime pas du tout, en fait. Voilà. Ah, puis après, je me demande à qui est ce vêtement. Voilà. Mais c'est incroyable, à partir de rien donc, hein. Voilà, perception, couleur, et tout à coup, ah waouh, ah puis là il y a mon vêtement en fait, ah faudrait peut-être que j'aille le chercher. Et c'est comme ça que ça se passe, non, au niveau de la connaissance. Donc on a quelque part un jugement sur absolument tout et n'importe quoi, d'accord. Mais c'est tellement génial plutôt que de réagir et d'ajouter du jugement sur le jugement, de se dire s'y intéresser. Justement, waouh, comment c'est comme on a pu quelque part explorer la soif du désir, plaisir des sens, la crêpe, le dosa, waouh, ici aussi, waouh, comment c'est le jugement? Qu'est-ce qui se passe au niveau du jugement? Plutôt que d'être dérangé. Et on a cette pensée-là, puis on est dérangé, et on réagit. Et en plus, on s'en veut, parce qu'on a eu du jugement. Oh mon Dieu, mais quelle honte! Et donc, c'est extraordinaire de pouvoir marcher derrière quelqu'un et de se rendre compte de tous ces aspects de jugement qui peuvent émerger et d'être dérangé, mais de garder cet esprit de curiosité, de joie, de légèreté pour explorer ça d'un espace beaucoup plus ouvert, beaucoup plus réceptif. Et de ne pas réduire le champ en disant « Oh mon Dieu, mais quelle horreur, c'est horrible, regarde ma méditation, elle est vraiment mauvaise et autres. » C'est fabuleux de pouvoir à ce moment-là élargir la perspective. Donc il y a le jugement sur les vêtements, il peut y avoir les jugements sur les autres personnes bien sûr. Hein. Je veux dire, qui on croit est plaisant ou pas plaisant. Là on a déjà tous décidé, ah oui, celui-ci m'aime bien, elle m'a regardé, voilà. Celle-là elle ne m'aime pas. Des fois, on connaît l'histoire de chaque personne parce qu'on s'est fabriqué un monde. Hein. Voilà. Où cette personne habite. Voilà. Tout ça, c'est les pensées. Hein. C'est les pensées. Voilà. Et ça ne correspond absolument pas à la réalité. Et je me souviens d'une fois, c'était tellement intéressant parce que j'ai médité beaucoup de mois à l'AMS, justement. Et j'avais fait une pratique qu'on nomme de concentration. D'accord ? Donc, pas tellement la présence, mais plus la concentration. Donc, forcément qu'on réduit le champ. Et je me suis trouvée dans la salle de méditation. Et je me suis retrouvée sur le coussin d'une autre personne. Vous vous rendez compte ? Je ne me suis absolument pas aperçue, forcément, puisque les yeux fermés, concentrés. Voilà. Et la concentration n'est pas la présence. Hein. Ça, c'est l'enseignement. La personne arrive, moi, très intérieure, elle me tape gentiment sur l'épaule pour me le signaler. Je suis là. Ma chaise, mon endroit. Ah ouais, ouais, c'était la place à côté. Et après, je suis totalement sortie de mon état de concentration profonde pour avoir des ruminations pendant plusieurs heures sur ce que pensait la personne de moi, forcément. Alors que moi, la méditante, pratiquant la concentration. Et ça a exactement touché ça, cette soif de non-existence. Disparaître. Oh, quelle horreur. Donc vous voyez combien ça se perpétue. C'est ça les situations de vie. C'est extraordinaire. Et en réalité, j'ai pu découvrir un sentiment de honte là-dessous. Mais un sentiment de honte qui avait trait non pas à la situation présente, mais qui était quelque part intégré dans cet être, dans cet organisme, parce que l'événement il était assez banal en réalité, hein, et dans cet organisme depuis très longtemps. Et tout plein d'émotions ont émergé par rapport à la honte dans l'enfance. Parce que je ne faisais jamais les choses assez bien. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui va chercher loin, bien sûr. Mais ça avait réémergé au contact d'une histoire tellement simple et tellement banale. Et donc, vous voyez qu'en toutes circonstances, on peut quelque part découvrir quelque chose de nous-mêmes. Et que ça peut aller chercher loin si on s'intéresse au processus. Et que ça peut vraiment nous mettre dans des circonstances qui vont nous éclairer et qui vont libérer des émotions, des pensées, des jugements qui sont très très enfouis, cachés. Donc c'est là que ce processus se passe. Et dans le silence, je trouve que c'est extraordinaire parce que forcément que tout est grossi. Tout prend une proportion absolument gigantesque parce qu'on est en silence, on est complètement quand même beaucoup plus calme et c'est grossi. Comme vous pouvez voir la beauté peut-être de l'extérieur de la nature et on se dit waouh, j'ai jamais vu quelque part un paysage aussi beau qu'ici, parce que tout simplement, on est beaucoup plus calme, donc beaucoup plus disponible, plus tranquille que dans notre vie habituelle. Donc à la fin de la retraite, pour la petite Istal, et les mois avons ri, parce qu'on est parti le même jour, et par chance, elle m'a aussi partagé qu'elle s'était retrouvée les pieds dans les chaussures d'une autre personne. La sortie de la salle de méditation. Et ça, forcément que ça arrive. Mais on a eu un fou rire. Mais c'était extraordinaire. Donc, vous voyez que là, tout à coup, le monde de mes préoccupations, de mes angoisses, de la honte, tout à coup, eh ben, il se dissout. Et c'est l'impermanence. Et c'est absolument génial de rire de situations comme ça après coup. Et je pense qu'on en a tous et toutes. Donc, quelle réalité on donne? Quelle réalité on donne à ces pensées? Donc, c'est absolument génial de pouvoir percevoir ceci d'un espace de discernement, mais aussi de légèreté. Des fois, l'humour aide. Et surtout quand on est pris dans un récit qui est un récit justement extrêmement douloureux parce qu'il y a des pensées négatives. Et ces pensées négatives, on y croit, on les prend comme réelles, on se les approprie. C'est moi qui suis comme ça et qui vais souffrir. Et donc, il y a là des croyances extrêmement solides. Et ces croyances solidifiées, c'est toujours pas la réalité. Vous voyez, elles sont tellement solides qu'elles prennent la place de la réalité, mais ces croyances solidifiées, nous commençons à les percer. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment beaucoup de bien de commencer à se dire « Waouh, mais je me réveille là !» Cette croyance, elle a que, quelque part, l'espace de la croyance. Et que ce n'est pas forcément quelque chose qui doit prendre toute la place et auquel on doit croire. Donc une manière de pouvoir quelque part explorer ceci, c'est, quelle que soit la phrase, « je suis nulle, je ne suis pas capable, je ne sais pas faire, tout le monde est calme, et puis moi, franchement, ça s'agit toujours à l'intérieur, et on voit la salle tout à fait calme, et voilà. » Et là, on se dit, mais waouh, il n'y a que moi qui suis ici dans une agitation absolument incroyable. Et vous pouvez rajouter, et ça vient de Joseph Goldstein, dit, et les hortensias sont bleues. Je suis nulle, je suis vraiment emplie de honte, et ici c'est merveilleux parce qu'il y a des hortensias, voilà, et les hortensias sont bleues. Ça dégonfle pas, hein? C'est absolument fantastique. Et voilà, je vous partage son enseignement, parce que lui-même, il était vraiment dans un espace aussi... il est très franc, c'est absolument génial de l'entendre. Il est très franc et très sincère, et très humble aussi, quand je pense. Il est vraiment ce grand maître. Et il nous raconte, voilà, il y avait un moment où, justement, l'histoire avec... Je ne vais pas raconter son histoire, mais avec Sayadaw Pandita, où lui-même aussi, il avait été... renvoyé sèchement, on va dire. Et puis, il avait trouvé cette petite phrase, voilà, je suis un incapable, je ne sais pas méditer, et les hortensias sont bleues. Vous relativisez complètement votre récit tragique au sujet de ce que vous pensez pour vous-même. Donc, dans l'enseignement, il y a cette merveilleuse possibilité de percevoir qu'à partir d'un contact, il y a des perceptions, et qu'à partir de ces perceptions, il y a une profusion mentale. On conceptualise. D'accord ? En pali, ceci s'intitule papancha. Et je pense qu'on papanchise beaucoup. C'est ce que j'ai décrit, justement. Ce mot papancha, il est traduit par conceptualisation, prolifération mentale, complexification au niveau de nos constructions. C'est vraiment une tendance qu'on connaît tous, qu'a l'esprit à amplifier, à broder, à s'emballer. Et c'est vraiment un des termes, c'est s'emballer. S'emballer, c'est-à-dire qu'il perd, quelque part l'orientation autour d'une expérience. Et du coup, il commence à interpréter, il commence à se faire des scénarios qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe. Et donc, selon le Bouddha, surtout dans le Madhupindika Sutta, c'est un sutra qui est très célèbre en réalité, on prend comme référence, il explique cette prolifération mentale, comment c'est un des principaux moteurs de la souffrance. Parce que quand on est perdu dans nos récits, pour le Bouddha, c'est de la souffrance. parce que justement, on se perd souvent dans ses pensées négatives. Et il relie ce papancha, justement, aux constructions du moi. Ce sentiment de moi-je, dont on a entendu l'enseignement hier soir. Moi-je. Construction du moi, du mien, à moi. S'approprier les pensées, s'approprier les choses. Et naturellement, s'il y a un moi, eh bien, il y a un autre. La présence d'un moi va naturellement donner quelque part une dimension de présence à l'autre. Et quand il y a moi et l'autre, il y a très souvent, quand il y a du papancha, de la prolifération mentale, bah, du conflit, des malentendus, des méprises, de l'incompréhension. Et donc il décrit ça dans ce sutra. Comment d'une simple pensée qui fait que moi j'ai raison, l'autre a tort, et il y a naturellement là tout un processus de perdition de la réalité. Donc comment ça se passe? Ben, c'est très simple le fonctionnement. Avec un contact sensoriel, c'est-à-dire un son, un goût, une image, le linge qui pend là, voilà, quand je l'ai vu ce matin, il y a la perception, donc l'esprit perçoit une image, une personne, un goût, on a tous ces contacts sensoriels, un son, et à partir de cette perception, qui est très simple, très directe, eh bien, il crée une histoire. Et contact, perception, pensée. Jusque-là, ça va. Reconnaître les pensées, on reconnaît les pensées, ok, ah ouais, pensée, tiens, jugement, ok. J'aime cette couleur d'habit, je n'aime pas cette couleur d'habit. Ah oui, voilà. Et on commence à fabriquer des pensées qui vont bien plus loin que ce qu'on perçoit véritablement au moment où on le perçoit. C'est là que Papancha commence. Un enchaînement d'associations d'idées. Et à ce moment-là, on part. On part dans le récit, on interprète et on quitte le moment présent. Donc, contact, perception, pensée, conceptualisation. Ce processus, vous pouvez le voir à l'œuvre, à tout moment. Et c'est absolument génial, parce que c'est exactement comme ça qu'on passe du présent, ou de l'expérience présente du contact, à l'imaginaire. Et dans l'imaginaire, ben, il peut arriver mille et une choses, mille et une interprétations, ça c'est clair. Donc on peut reconnaître ce processus encore et encore, on réalise, tiens, juste voir que l'esprit est en train de papancher, de broder sur l'expérience. Ah, papancha en cours! Les hortensias sont bleues. Papancha en cours. Doup, 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 doup. J'aime beaucoup ce mot, hein, parce qu'il parle bien, hein, papanchi. Doup, doup, doup. C'est du bavardage mental, en fait. Hein. Ça papillonne. Voilà, c'est ça. Revenir à l'expérience directe. Sensation corporelle, respiration, son. Tout ça est beaucoup plus immédiat. Pensée. Ah, mais pensée, ça fait partie du processus. Il n'y a pas de souci. Reconnaître les pensées. Pensée jugement, pensée interprétation, pensée qui fait que, ah, waouh, se souvenir, peut-être, se rappeler, hein, comme dit Charles, le passé du présent. Il a dû me l'expliquer, hein, là, l'autre jour, parce que je me suis... C'est son nouveau terme, donc... je pensais comprendre, puis je me suis dit, mais voilà. Passé du présent, voilà, ok. Vous voyez comme quoi, si jamais, hein. Vous pouvez lui reposer la question. Hein. Bon. Les souvenirs du passé sont des pensées au présent. Voilà. Mais c'est joli, passé du présent. J'aime bien. C'est vraiment super. Nous n'avons pas du tout besoin de les croire, ces souvenirs. Et en même temps, on se rend compte que quelque part, il y a quand même quelque chose à explorer. comme pour mon récit, quand c'est parti si loin dans l'enfance, où j'ai pu retrouver une émotion liée, vraiment, pas tellement le blâme, mais la honte, ce sentiment d'être soif de non-existence, c'est vraiment vouloir disparaître, parce que c'est du genre, j'ai zéro valeur, donc de toute façon, aux yeux des autres, je suis rien, je suis personne, voilà. Et du coup, pour moi-même, eh bien, je me repère de cette façon-là. C'est hyper douloureux de se rendre compte de ceci, mais en même temps, le fait de s'en rendre compte nous en libère. C'est là que de percevoir quand même ces constructions mentales à l'œuvre et ces émotions à l'œuvre, ici, d'un espace d'écoute, de bienveillance, de discernement, ben, on peut les percevoir pour ce qu'ils sont. Et c'est complètement différent que de continuer à les croire et solidifier nos croyances. Donc il y a quelque chose ici de très très précieux en réalité. Donc il y a une citation là provenant d'un enseignant, je ne me rappelle plus de son nom, mais du coup j'ai noté la citation. Donc désolée, voilà, je ne sais pas qui l'a dit, mais pas pancha, c'est l'ivresse de l'esprit face à ses propres constructions. C'est joliment dit, ça. Papancha, c'est l'ivresse de l'esprit face à ses propres constructions. Il s'enivre. Et là, je vais vous lire un petit texte qui va naturellement éclairer le fait qu'on peut aussi être dans une perspective de contact avec les pensées tranquillement, non pas se perdre dans les contenus des pensées, c'est-à-dire les récits, mais percevoir les pensées pour ce qu'elles sont. Donc, être conscient d'une pensée lorsqu'on est en train de penser. Ça demande pas mal de pratique, hein. Mais c'est tout à fait possible. Conscient, si on est du côté de la présence et de la conscience, on va pouvoir commencer à percevoir l'émergence de la première pensée. Waouh! Et c'est exactement ce que m'a donné Sayadaw Pandita comme pratique. Je suis restée des jours. Je dis, ok, tu parles la sensation corporelle, et comment est-ce que c'est de passer de la sensation corporelle à la pensée? Il y avait plein de moments là, zap! J'étais perdue dans la 10e pensée, 15e pensée. Mais c'est super intéressant parce que qu'est-ce que ça fait? Ça réveille la curiosité. Ça réveille l'investigation. Justement, regarde, sois curieux, précis. Il y a une certaine précision dans cette pratique. C'est pas juste là. Non. Waouh, précisément, comment c'est d'être dans le contact corporel? Ça peut être une sensation, ça peut être une respiration. Et tout à coup, on se retrouve 10 trains plus tard. On ne sait pas comment on est monté en ce train. Mais c'est fascinant, ça. En tout cas, pour moi, là, c'est vraiment fascinant. Donc, la conscience d'être conscient d'être en train de penser, c'est quelque chose que nous allons pouvoir découvrir progressivement. Et ça prend du temps. Hein. C'est pas si on est débutant, de quoi elle parle, là. C'est possible d'être présent en pensée quand on est présent? Oui, c'est possible. C'est possible de les percevoir émerger. Et donc, le petit texte que je vais vous lire vient de Sayadaw Tejania, qui est un maître birman aussi, avec lequel j'ai pratiqué en Birmanie. Et il dit, si vous vous sentez dérangé par les pensées, rappelez-vous que vous ne méditez pas afin de les prévenir, mais plutôt pour les reconnaître quand elles surgissent. Si vous n'êtes pas présent, vous ne pouvez pas savoir que vous pensez. C'est génial. Le fait de reconnaître que vous pensez démontre la présence. Vous voyez combien c'est extraordinaire de voir la chose de cette façon-là, un autre angle. Le fait de reconnaître que vous pensez démontre la présence. Rappelez-vous bien ceci. La quantité de fois où la conscience s'évade en pensée, ou s'agace à propos d'elle est quelque chose qui importe très peu. L'important, c'est d'en prendre conscience. Que vous soyez assis, que vous marchiez ou que vous soyez au milieu d'une activité quotidienne, posez-vous de temps en temps ces questions. Que fait la conscience en ce moment ? Que fait la conscience en ce moment ? Pense-t-elle ? À quoi pense-t-elle ? Est-elle présente ? Donc la conscience, là, c'est la présence. Hein. Ce terme en anglais de « awareness » pour les personnes qui ne sont pas de langue francophone, cette qualité de conscience-présence qu'on peut reconnaître et qui va naturellement nous permettre de percevoir et de voir que cet esprit, cette conscience, ben c'est de là qu'émergent ces pensées. C'est l'esprit mobile. Lorsque l'esprit mobile est là, ben c'est qu'il est en train de penser. Donc dans ce type de rapport juste, ben on allège beaucoup à ce moment-là le poids, dans le sens de pas avoir l'idée qu'on doit se débarrasser des pensées pour être présent. Elles font complètement partie du processus en s'y intéressant, et non pas en essayant de lutter contre elles. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont intéressées par ça ? Plutôt que de vouloir s'en débarrasser puis dire « Ouais, non, j'aimerais tellement le calme, stop, stop, ces pensées, stop. » Waouh ! Qu'est-ce qui se passe là ? C'est qu'il y a de la fluidité, il y a du mouvement, il y a de la présence, et puis il y a naturellement cette dimension de pouvoir voir le flux de la conscience, le flux des pensées, l'impermanence, qui est une des caractéristiques qu'on découvre au fil de la pratique. Il y a du mouvement, de la fluidité dans ce processus, exactement comme un courant d'eau. Rien n'est figé. Si c'est figé, c'est qu'on se fige. Ces figements proviennent d'une saisie. Je ne veux pas ces pensées. Il y a un figement. Donc, naturellement, là, il y a une position qui fait qu'on lutte. Et lutter, qu'est-ce que ça fait ? Ça les renforce. Plus vous luttez contre les pensées, plus elles vont se renforcer, plus elles vont vous gêner. C'est génial de se rendre compte de ceci. Donc là, c'est un chemin inverse. Mingyur Rinpoche, avec qui j'ai aussi pratiqué, il dit « Les pensées, c'est comme les invités non invités. Si tu ne leur sers pas de thé, ils finissent par partir. Sans se cacher dans l'humour, les pensées viennent sans qu'on les invite. Si on en prend doucement conscience, sans réagir, sans les nourrir, elles perdent de leur pouvoir. Donc vraiment, je vous invite à avoir cette perspective-là, parce que c'est immensément aidant dans la pratique. Vous allez vraiment lever le fardeau que vous croyez, vous dites « Oh mon Dieu, encore un jour de retraite, mais quelle horreur !» Toutes ces pensées, tout. Non, c'est plus léger, c'est « Waouh !» La présence, elle n'est pas constamment en guerre contre ceci ou cela. Alors il dit ben, « Vous pouvez leur offrir une hospitalité lucide et tranquille, sans service à offrir. » Pas de thé. Voilà, donc à ce moment-là, ben, la présence, qu'est-ce qui se passe ? Elle se renforce. C'est ça qui se passe. Quelque part, la qualité de la présence se renforce. Parce qu'on est moins occupé et préoccupé à chercher à se débarrasser des contenus. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ben, il y a plus en plus de qualité, de présence et de conscience. Cette présence se renforçant, on est beaucoup plus enclin à voir les histoires pour ce qu'elles sont. Ah, c'est une histoire que je me raconte. Oh, waouh ! Quel jugement, là ! Oh, ok. Mais il y a du discernement. Donc, on commence un peu à voir à travers les schémas. Et c'est comme ça qu'on protège son esprit. C'est comme ça. Pour en revenir à ce que j'ai dit au début, cette manière de pouvoir, quelque part, explorer la méditation, nos récits, nos vécus, en lien avec la vie, en lien avec ce qui se passe en nous-mêmes, eh bien, fait qu'on commence à rompre ces schémas d'habitude et prendre conscience que on peut sentir une certaine protection de tout ce qui peut nous empêtrer, de tout ce qui est difficile. Et donc, il ne faut absolument pas sous-estimer le pouvoir de cette qualité de présence. Ce sont des moments de liberté, des petits moments, mais ces moments-là sont très précieux. De toute façon, on n'a que des moments, hein. Rien d'autre. Donc, c'est pas qu'on a toute la vie, il y a un moment, et ce moment de liberté-là, waouh, il est très précieux. Donc, tranquillement, on commence à percevoir qu'on a moins de pensées obsessionnelles. Et c'est vraiment comme ça, je peux vous partager ma propre expérience, parce que Dieu sait si j'ai commencé avec énormément de difficultés émotionnelles, pensées jugeantes, enfin voilà quoi, je veux dire, c'est évident que le début de mon chemin a émergé de la souffrance intérieure, comme pour beaucoup de personnes, et que il y a bien des années plus tard, une légèreté à pouvoir vous parler de la manière dont je vous parle. Donc je peux que vous transmettre ma confiance, comme je l'ai dit l'autre soir, et puis de percevoir qu'il y a un cheminement. Comme le disait Mark Twain, ma vie a été remplie de terribles malheurs dont la plupart ne se sont jamais produits. C'est magnifique si on peut se dire ça. C'est magnifique parce qu'il y a effectivement des vies qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres. Donc, cette dimension de rester du côté de la présence, on rompt un petit peu plus l'habitude d'être simplement situé toujours au niveau de l'imaginaire. Et cette présence-là, eh bien, elle est enrichissante, on y goûte et on savoure cette présence. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que quelque part, elle a un goût. Quel goût elle a ? Eh bien, du déconditionnement. On sent vraiment qu'il y a un moment, waouh, la liberté prend le dessus. Je me sens libre. Qu'il y ait des pensées ou qu'il n'y ait pas de pensées, je me sens libre. Je ne suis tout simplement pas happé, perdu, confus par rapport à leurs propos. Par contre, quand on est complètement perdu, on est perdu. Et puis c'est tout. C'est tout ce qui se passe. Ben, je suis perdue dans mon récit, puis un moment plus tard, ben, je me réveille, puis je me dis, oula, j'ai passé du temps là. À créer mon univers horrible. Voilà. Ça peut être aidant. En tout cas, c'est comme ça que j'ai aussi pratiqué, naturellement bien manié, et dans le système de Maasi, on est invité par moment à étiqueter. Cet étiquetage peut être utile, surtout quand on est empêtré de façon vraiment récurrente. Vous voyez, ces pensées récurrentes qui reviennent, là, qui sont là, et puis qu'on ressasse, puis on dit « Non, mais encore celle-ci !» Non, mais c'est pas vrai quand... Eh bien, de pouvoir étiqueter, ça fait justement que plutôt que de partir dans le papancha, la perception, cette perception dont j'ai parlé il y a un moment, est aiguisée. Sanya. La perception aiguisée va nourrir le discernement. Et le fait d'étiqueter, tiens, quel type de pensée c'est ? Quel type de pensée ? Est-ce que c'est, justement, quelque part, du ressassement ? Est-ce que je ressasse quelque chose ? Quelque chose qui n'a peut-être pas été digéré. Hein ? Donc voilà, je ressasse, je rumine, voilà, je revisite l'histoire. Est-ce que c'est, au contraire, que je suis quand même dans le présent, mais je suis constamment en train de commenter. Donc il y a, ah oui, commentaire ou jugement. S'il y a de l'inquiétude, très souvent, c'est l'inquiétude, elle provient très souvent de ce qui pourrait arriver. Donc en anticipation de ce qui pourrait arriver. L'inquiétude de, oh mon Dieu, ça va être horrible. Donc là, plutôt que d'être dans un récit où on imagine le pire qui pourrait arriver, eh bien, waouh, projection. Planification. Vous voyez ces petits mots qui sont des souffles. Il faut vraiment les utiliser à bon escient. C'est-à-dire que c'est comme un outil, on l'utilise quand c'est utile. J'utilise le marteau que quand je veux mettre un tableau au mur. Hein. Pas tout le temps, parce que si vous l'utilisez tout le temps, ça devient mécanique. Et surtout, ce qui se passe, c'est que ça recouvre l'expérience. Et donc, on ne veut pas que ça recouvre l'expérience. Ce n'est pas à la place de... C'est juste que ça réveille la présence, la conscience, et ça nous aide à y voir plus clair. Tiens, est-ce que c'est de la planification? Est-ce que c'est du commentaire? Est-ce que c'est du jugement? Et ça, on peut le faire d'une manière tout à fait judicieuse afin de réveiller cette qualité de présence, de pleine conscience, d'une manière plus aiguisée, plus vive. Ça permet la vivacité de l'esprit. Dilgo Khyentse Rinpoche, qui est un autre maître avec lequel j'ai médité. J'ai eu beaucoup de chance, hein, franchement. Quand je regarde en arrière, waouh ! Je me dis, waouh ! Vous voyez, c'est ça l'avantage d'être très âgé. C'est d'avoir eu des maîtres bien à l'ancienne. Vous, malheureusement, ben voilà, vous êtes avec nous. Encore que, hein, pas tant à plaindre, je trouve. Vous voyez le sentiment de la soif d'existence ou de non-existence. C'est tellement drôle. Lui, il dit, Dilgo Khyentse, quand vous courez après vos pensées, vous êtes comme un chien poursuivant un bâton. Chaque fois que le bâton est lancé, vous accourez après. Au lieu de cela, soyez comme le lion qui, plutôt que de courir après le bâton, se tourne vers celui qui l'a lancé. On ne lance un bâton à un lion qu'une seule fois. C'est parlant, ça. Voilà. Ça implique que quelque part, ce sens profond, le chien représente la manière habituelle de fonctionner de notre esprit, captif du bavardage mental et de la dissipation, surtout beaucoup de dissipation. Hein. Et ce lion qui symbolise la clarté éveillée, au lieu de courir après chaque pensée, on est dans une capacité de percevoir la nature de la conscience. C'est ça qui se découvre. Tourner quelque part l'esprit sur lui-même. Voilà les quelques réflexions au niveau des pensées. Et je pense que c'est absolument merveilleux d'être ici et de pouvoir quelque part explorer des choses aussi profondes. Je vais terminer avec un petit texte de Bhikkhu Bodhi. Le Bouddha ne nous demande pas de le croire aveuglément, mais d'examiner. Tout est question d'expérience dans son enseignement. On ne peut arriver à cette vision par le biais de la pensée conceptuelle. Il ne s'agit pas d'un processus intellectuel, la compréhension est intuitive. Elle émerge d'un espace intuitif, d'un espace de grande simplicité, un espace ordinaire, basé simplement dans le contact avec chaque expérience. Nous simplifions notre relation à la vie, à nous-mêmes, en méditation. Ainsi, nous y voyons plus clair. Nous cessons de nous perdre dans le mental. Ceci requiert beaucoup de pratique, et c'est pourquoi nous sommes ici, dans un environnement bien particulier et en silence. Donc il a naturellement exprimé ceci lors d'une retraite.